Merci d'avoir choisi RFI pour vous informer. 4h30 à Paris, 3h30 temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
C'est une saga politique qui plonge la ville malgache de Diego Suarez dans le flou malgré sa réélection à la tête de la capitale du nord de Madagascar. Fin janvier, Jean-Luc Dzafzouzar se dit toujours en cavale. Il confie à RFI vouloir éviter la prison alors qu'une enquête a été lancée à son encontre pour détournement de fonds publics en septembre dernier. Pour pallier son absence physique à la mairie, le gouvernement central a imposé un remplaçant. Aux Comores, un quatrième scrutin en un an hier, des élections communales. Sans grand suspense toutefois, vous expliquera un spécialiste. Le M23 sommet de cesser son offensive dans l'est de la République démocratique du Congo, mais pas de condamnation commune de l'action des troupes rwandaises. Ce week-end, les États membres de l'Union africaine se retrouvaient en sommet à Addis Abeba en Éthiopie, sauf qu'aucun plan de sortie de crise n'a été clairement défini, et ce, alors que le M23 et les forces de Kigali sont entrées dans Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu. Et puis lui était considéré comme le premier imam ouvertement gay en Afrique du Sud. Mohsin Hendrix a été assassiné ce week-end au Cap. Se cacher pour continuer à régner. C'est comme ça qu'on pourrait qualifier la situation actuelle de Jean-Luc Dzafzouzar dans le nord de Madagascar, réélu pour un troisième mandat à la tête de la ville de Diego Suarez fin janvier. Confortablement même, cette figure locale reste toutefois sous le coup d'un mandat d'arrêt lancé à son encontre en septembre dernier pour détournement de fonds. Depuis, il ne peut pas se montrer physiquement à la mairie. C'est pour cela que le 5 février dernier, le ministère de l'Intérieur a nommé en toute discrétion pour le remplacer un fidèle du régime en tant que PDS. PDS pour président de délégation spéciale, comme il est traditionnellement appelé. Une situation que dénonce le principal intéressé, Pauline Le Troquier.
Il y a absence et non vacances, la commune continue de tourner, se défend Jean-Luc Dzafzouzar. Joint par RFI, le maire élu de Diego Suarez confirme se trouver en cavale pour ne pas croupir en prison, dit-il, en attendant son jugement définitif en cassation. Il affirme par ailleurs que les affaires de la ville continuaient jusqu'alors d'être suivies, les actes administratifs signés à distance. Pour l'élu, la vacance de poste n'a donc pas lieu d'être saisie. Le tribunal administratif de Diego Suarez n'a d'ailleurs rendu aucun jugement dans ce sens, comme l'exige pourtant la loi. Pour mettre Karim Kiloub, avocat de Jean-Luc Dzafzouzar, les principes qui régissent la nomination d'une délégation spéciale ont été enfreints par le pouvoir central.
Un ministre sans jugement de vacance de poste, dûment constaté devant un tribunal administratif, ne peut pas, selon la loi, désigner une délégation spéciale. Ce que nous avançons aujourd'hui, c'est qu'il y a excès de pouvoir. Et justement, cet arrêté, pour nous, entrave à la liberté de voter qui a été exprimée par le peuple de Diego.
Deux recours ont été déposés devant le Conseil d'État pour suspendre puis annuler la nomination du remplaçant du maire élu. Il s'agit d'une figure politique locale, Irmar, du parti présidentiel. Pour l'heure, ce dernier occupe toujours les bureaux de l'hôtel de ville avec le soutien de la préfecture. Des 6 chefs-lieux de province, la commune était jusqu'alors la seule grande ville dirigée par un maire non affilié au régime. Sollicité par RFI, le ministère de l'Intérieur n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Les mandats des élus locaux étaient remis en jeu hier aux Comores. Après la présidentielle, les législatives, l'élection de gouverneur, c'était le quatrième scrutin en un an. Un rendez-vous électoral sans réel enjeu, selon le chercheur Mladjao Abdoulanlim. On l'écoute.
Là, s'il s'agira de d'élire des maires pour les communes, etc., etc., des maires qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, hein. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. On sait qui va gagner et ça sera encore le parti au pouvoir. Alors, on se demande pourquoi, parce que quand on regarde l'état du pays aujourd'hui, quand on sort de 2 semaines de blackout parce qu'il n'y a pas d'électricité, je ne sais pas pourquoi le parti au pouvoir gagnerait ou raflerait toutes les élections, en fait. Ce sont des élections fantoches qui sont là pour légitimer un peu un pouvoir qui doit se vendre à l'extérieur, à l'international, qui doit dire qu'il organise des élections. Mais finalement, oui, il faut oser le mot, ce sont des élections fantoches et qui sont au vu de tout le monde. Donc, ce ne sont pas des suppositions, il y a des preuves. Les structures qui doivent surveiller ces élections, c'est-à-dire la CENI, la Cour suprême, sont aux mains du pouvoir. Et on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des élections dans ce pays.
Mladjao Abdul Hanlim, interrogé par Amira Suilem. Un malaise autour de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo qui tend l'Union africaine. Les chefs des États de l'organisation se réunissaient à Addis Abeba en Éthiopie ce week-end, au moment où le M23 soutenu par le Rwanda entrait dans Bukavu, au sud Kivu. Une réunion diplomatique qui a donné lieu à des échanges houleux. Peu d'avancées se sont matérialisées du point de vue congolais. Aucune sanction ni condamnation explicite de Kigali n'a été annoncée et aucun plan de sortie de crise ne semble non plus se dessiner dans une assemblée très divisée. Florence Maurice.
Un seul pays, le Burundi, a plaidé à huis clos ce dimanche pour que les chefs d'État condamnent le Rwanda en conclusion de leur sommet. Mais dans la salle, personne n'a rebondi, raconte un participant. Dans les couloirs aussi, beaucoup ont évité le sujet ou choisi de l'évoquer en des termes très flous. Le Kenyan Raila Odinga, interrogé par une journaliste, a tout simplement répondu « je ne veux pas en parler ». Il faut dire que la réunion du Conseil paix et sécurité de vendredi consacrée à cette guerre a été explosive. La RDC a plaidé pour des sanctions contre le Rwanda pour son agression, je cite. Furieux, le président Kagame a rejeté l'entière responsabilité du conflit sur la RDC. Une tension telle que la conférence de presse prévue à l'issue a été annulée et que 48 heures plus tard, le communiqué final n'a pas encore été publié. Dans l'après-midi, le commissaire paix et sécurité, Bankole Adeoye, a tout de même donné une conférence de presse pour appeler au retrait immédiat du M23 et de ses partisans de toutes les villes occupées. Il n'a pas mentionné le Rwanda. Côté congolais, on se félicite que Kigali n'ait pas obtenu le siège que le pays briguait au sein de ce conseil paix et sécurité. Un vote sanction, selon certains analystes, même si d'autres facteurs ont pu jouer et que l'influence de Paul Kagame au sein de l'UA reste très importante.
Florence Maurice. Sur le terrain, donc toujours dans l'est de la RDC, à Bukavu, le calme semble être revenu hier. À la veille, pourtant, l'atmosphère était très confuse. Des scènes de pillage, notamment, avaient été constatées. Autre situation observée ce dimanche matin, cette fois dans les rues, des prises de parole d'hommes du M23 pour tenter de rassurer les habitants et de les rallier à leur cause. Écoutez le récit de ce commerçant. Pour des raisons de sécurité, il préfère rester anonyme.
Effectivement, j'ai fait un tour et on a aperçu les militaires, les rebelles. Ils sont arrivés avec leur commandant, leur chef, le colonel Bernard Diamond. Il nous a parlé, et j'ai une vidéo là. Il a dit ils sont venus nous libérer contre la mauvaise gouvernance de M. Tshisekedi. Et aussi, il nous a prodigué des conseils de ne pas piller nos voisins, les boutiques des amis. Et puis, il a commencé à conscientiser les jeunes pour entrer dans l'armée, pour aller libéré jusqu'à Kinshasa. La population acclamait par peur, comme je vous ai dit. Acclamait seulement. Est-ce que toi, tu es devant un rebelle, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas seulement accepter ce qu'ils sont en train de dire. Les gens ont accepté, mais est-ce que ça vient de leur cœur, du fond de leur cœur, je ne sais pas.
Une nouvelle attaque terroriste contre une position militaire dans le nord du Bénin. De sources sécuritaires béninoises, 6 soldats ont été tués dans un assaut sur une position stratégique de l'armée située dans le parc W, dans la zone de Karimama. C'est à 750 km au nord de Cotonou. À ces mêmes sources indiquent qu'une quinzaine d'assaillants ont été abattus. Le GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui a revendiqué l'attaque, avance lui un bilan de 8 soldats décédés. À la situation sécuritaire dans le nord du Bénin, on y revient également dans cette édition d'Afrique Matin avec un reportage long format auprès des habitants de la ville de Banikouara, dans la zone dite du point triple. Rendez-vous dans une dizaine de minutes sur RFI. En Afrique du Sud, il était un symbole de tolérance au sein du milieu religieux. Moussine Hendrix, tout premier imam ouvertement gay, a été assassiné ce week-end. La police de son côté continue d'enquêter, mais pour les associations LGBTQIA+, aucun doute, il s'agit d'un crime haineux. La mosquée de cet imam dans la ville du Cap était en effet devenue un refuge pour les musulmans de la communauté queer. Lui s'apprêtait à marier deux femmes lorsqu'il a été abattu dans sa voiture, Valentin Hugues.
La police du Cap Oriental est à la recherche de deux individus suspectés du meurtre de Moxin Hendrix.
Ils sont sortis de leur voiture et ont criblé de balles son véhicule avant de prendre la fuite. Le chauffeur s'est alors retourné et a découvert que l'imam installé à l'arrière avait été abattu.
Une onde de choc selon Roberto Quintas de l'Alliance démocratique, deuxième parti politique du pays. Il est le président du comité régional LGBTQIA+, du Cap, où l'imam avait fait de sa mosquée un refuge pour les musulmans queer.
Ce crime horrible rappelle rappelle la violence des attaques subies par la communauté queer en Afrique du Sud.
Des associations craignent alors qu'il s'agisse d'un crime de haine. Julia Hert, directrice de ILGA, principale organisation mondiale de défense des droits LGBT.
Il était très engagé depuis des décennies. C'était un activiste très apprécié par notre mouvement. Mais il était aussi très exposé et il ne fait nul doute qu'il avait de nombreux ennemis. J'ai eu la chance de le rencontrer en novembre dernier lors d'une conférence. Il m'avait profondément impressionné par son humilité et son courage.
Après avoir rendu public son homosexualité en 1996, Moxil Hendrix était considéré comme le premier imam ouvertement gay. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Au Kenya, les voix qui critiquent le gouvernement a réduite au volume minimum depuis les manifestations anti-gouvernementales de juin et juillet dernier. 89 personnes ont été enlevées selon la Commission kényane des droits humains. Une vingtaine est toujours portée disparue d'ailleurs. D'autres, en revanche, ont été libérés après quelques jours. L'un d'entre eux a d'ailleurs accepté de témoigner au micro de RFI. Il s'appelle Bob Jagi. Et après son arrestation le 19 août dernier, il est ensuite resté détenu pendant 32 jours. Notre correspondante à Nairobi, Alban Tiroir, a pu le rencontrer.
Le béret rouge que Bob Jagi porte est devenu son signe distinctif. Un signe de lutte pour ce Kenyan de 47 ans qui a participé aux manifestations anti-gouvernementales l'année dernière. Il en est persuadé, c'est à cause de son militantisme politique qu'il a été kidnappé. Le soir du 19 août dernier, il rentrait en bus de Nairobi vers Kitengela lorsque quatre hommes masqués l'ont emmené de force. Menotté, les yeux bandés, il a été conduit dans un bâtiment. Il y a passé 32 jours.
La pièce avait un petit matelas et une couverture. Je recevais à manger une fois par jour. Il y avait un seau pour faire mes besoins qui était vidé chaque matin. Pendant ces 30 jours, je n'ai pas subi de torture physique, mais la torture était mentale. Je ne savais pas quand j'allais sortir. Jour et nuit, j'étais plongé dans le noir car la pièce était verrouillée. Je n'avais personne à qui parler. De temps en temps, en me déposant de la nourriture, mes geôliers me demandaient qui finance ces manifestations. Je ne savais pas si j'allais ressortir vivant.
Bob Jagi a finalement été libéré le 20 septembre. Ce jour-là, le chef de la police était convoqué devant les tribunaux pour fournir des explications sur sa disparition. Bob Jagi accuse les autorités d'être derrière son kidnapping. La police kényane, elle, a de nombreuses reprises démenti toute implication dans les récents enlèvements. En décembre, le président William Ruto a promis d'y mettre fin. Alban Tiro, Nairobi, RFI.
L'homme le plus riche d'Afrique continue de voir très grand alors qu'il a enfin ouvert sa gigantesque raffinerie au Nigeria en septembre. Elle doit d'ailleurs arriver à pleine capacité le mois prochain. Aliko Dangote veut maintenant investir massivement en Éthiopie. Le milliardaire prévoit en effet de doubler la capacité de sa cimenterie, ouverte dans le centre du pays il y a maintenant 10 ans. Et Justine Fontaine, plusieurs centaines de millions de dollars sont désormais sur la table.
En marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le milliardaire nigérian a annoncé que son groupe prévoit de dépenser 400 millions de dollars dans sa cimenterie au nord de la capitale éthiopienne, rapporte l'agence Bloomberg. Le groupe est déjà leader du ciment en Afrique et cet investissement doit permettre d'ici fin 2027 de multiplier par 2 la production de l'usine pour passer à 5 millions de tonnes par an. Cette cimenterie, qui fut un temps la plus grande du pays, a ouvert en 2015, mais elle a connu de nombreuses difficultés en raison de l'instabilité dans la région. En 2018, 3 employés, dont le directeur du groupe en Éthiopie, avaient ainsi été abattus à proximité du site. Aliko Dangote prévoit aussi de construire une nouvelle usine de broyage de ciment près d'Addis Abeba et d'augmenter ses investissements dans la production de sucre. Avec les engrais ou encore le raffinage de pétrole, c'est l'un des secteurs d'activité privilégiés par le groupe sur le continent.
Explication signée Justine Fontaine. Et puis en athlétisme, c'était un plafond de verre qui a été explosé de 18 secondes. L'Ougandais Jacob Kiplimo a fait tomber hier à Barcelone en Espagne le record du monde du semi-marathon, devenant par ailleurs donc le premier homme sous les 57 minutes. À 24 ans, l'athlète efface donc des tablettes la précédente marque établie en octobre dernier par l'Éthiopien Yomif Kejelcha. Vous écoutez toujours Radio France Internationale. Il est 6h et presque 34 minutes à Addis Abeba, 4h34 à Paris et Cotonou.
Pour écouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr.
Afrique Matin sur RFI. Paul Lonsin-Spinelli.
Et au sommaire des 15 prochaines minutes, notre reportage long format dans le nord du Bénin, où la pression djihadiste met à mal les habitudes des populations. Depuis l'attaque du Jnim qui a tué 30 militaires début janvier dans la zone du Point Triple, les habitants modifient leurs horaires ou leurs déplacements de travail, s'imposent aussi des couvre-feux. Notre envoyé spécial Magali Lagrange s'est rendue dans la ville de Banicoara pour le constater. Deux sommets en un à Rome en Italie la semaine dernière. Le rendez-vous annuel du Fonds international du développement agricole, le FIDA, avec en parallèle le Forum des peuples autochtones. Des communautés qui pourraient jouer un rôle dans la lutte contre la malnutrition, mais qui ont besoin d'être aidées par les grandes instances. Et puis, dans votre chronique matière première, Marie-Pierre Olfan reviendra sur la crise qui secoue actuellement le secteur du cacao. C'est une chape de plomb qui mine le nord du Bénin. Le 8 janvier dernier, la menace djihadiste a durement frappé la zone dite du point triple, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Plus de 30 soldats avaient été tués dans cette attaque revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il s'agit de la plus lourde perte depuis le déploiement de l'opération Mirador. Notre envoyé spécial s'est rendu dans le nord du pays, à Banicoara, où les habitants sont contraints de revoir leurs habitudes à cause de la situation sécuritaire. C'est un reportage de Magali Lagrange.
Les commerces sont ouverts à Banicoara Centre. Issiako attend les clients derrière la grille de son kiosque jaune et bleu.
C'est mon activité, ça. Je fais transfert d'argent et je vends des crédits aussi. Avant, ça marche. Mais maintenant, c'est la patience. Le temps est un peu dur. Dans la journée, comme ça, on ne vend pas. C'est le matin, le soir. Et maintenant, le soir aussi, notre temps est limité. Je quitte ici à 20h30 pour ma sécurité aussi.
Plusieurs sources locales évoquent le transport de carburant par des jeunes soupçonnés de ravitailler les groupes armés.
Des fois, les militaires viennent pour embarquer certaines personnes. On leur dit que, bon, on vous a vu transporter les bidons d'essence, amener ça de l'autre côté de la commune. Parce qu'il y a certaines localités, tu ne peux pas aller là. Si on te prend là, c'est toi seul, tu vas subir les conséquences. Nous-mêmes, on ne se retrouve pas. Hein.
À côté de lui, des émis de gens, des mototaxis patientent à l'ombre. Ce jeune homme, casque sur la tête, s'arrête sur un côté de la voie pavée.
Ah, vraiment, il y a la peur. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Si on prend, on voit que c'est quelqu'un, il est djihadiste, on ne sait pas où. C'est pour cela qu'on a toujours peur de faire même le travail. Par exemple, les lieux interdits d'aller à cause de l'insécurité, là. Comme Djumbaro, Kabaro. Au niveau des Mekrou, on ne peut pas aller tous ces liens-là. Tu parles là-bas, on va te qualifier comme tu es aussi djihadiste ou bien comme si tu es aussi un criminel. Donc ça fait qu'on reste toujours en ville.
Brouettes, motos et piétons circulent dans les rues adjacentes. Ce jeune homme vend des produits alimentaires avec son père. L'activité marche bien. C'est surtout le soir que la vie a changé.
La nuit, il y a les militaires qui font la patrouille. Donc à partir de 0h du jour, il n'y a pas trop de promenade. Donc il y a un confinement, on dirait. Ah bon, avant, j'avais l'habitude de me promener un peu aux alentours de 22h et aller jusqu'à 01h comme ça. Mais dès que les militaires ont commencé, du coup, à 22h, déjà, je suis à la maison. On entend des frappes ailleurs, on entend, donc on ne sait pas quand est-ce que ça vient chez nous. Mais quand même, pour l'instant, ça va.
Il n'y a officiellement pas de couvre-feu à Banicoara Centre, mais de sources locales, plusieurs villages de la commune, riverains du parc W et frontaliers du Burkina Faso, sont concernés de 18h à 6h du matin. Magali Lagrange, de retour de Banicoara, RFI.
Un premier d'une série de 4 reportages d'ailleurs dans le nord du Bénin, à retrouver jusqu'à jeudi sur RFI et aussi sur RFI.fr. Un tour d'horizon des principaux titres de l'actualité de ce lundi 17 février. Un procès très attendu qui s'ouvre aujourd'hui en France, plus de 10 ans après les otages de l'organisation État islamique face à leurs ravisseurs. 5 personnes jugées jusqu'au 21 mars, dont notamment le djihadiste Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif de Bruxelles en 2014, déjà condamné à la prison à perpétuité. Ce rendez-vous pris aujourd'hui à Paris, où se retrouvent d'ailleurs plusieurs dirigeants européens. Il s'agira d'ajuster la position européenne face à l'accélération de Donald Trump sur le dossier ukrainien. Réunion présentée comme informelle par la présidence française, à laquelle doivent assister les chefs de gouvernement de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Pologne, l'Espagne, Pays-Bas, du Danemark, ainsi que plusieurs représentants européens et le secrétaire général de l'OTAN. De son côté, Donald Trump justement affirme qu'une rencontre avec Vladimir Poutine pourrait intervenir très bientôt. Et dans ce contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky invite ses alliés européens à éviter un accord forgé avec les Américains dans le dos de Kiev et de l'Europe. Et puis, hier, la cérémonie des BAFTA grand-messe du cinéma britannique avec 2 films qui décrochent chacun 4 trophées. Le thriller Conclave de l'allemand Edward Berger, qui remporte entre autres le prix du meilleur film, et The Brutalist, qui décroche le prix du meilleur réalisateur et du meilleur acteur avec Adrien Brody. les peuples autochtones comme atout pour lutter contre la malnutrition. C'est en tout cas ce qu'a pensé le Forum des peuples autochtones. C'est comme ça qu'il a été pensé. Il s'est tenu à Rome la semaine dernière en Italie, en parallèle du rendez-vous annuel du Fonds international de développement agricole, le FIDA. Sauf que leurs connaissances à ces peuples autochtones sont mises en péril. Les aides, comme celles provenant de la finance internationale et notamment de la finance climatique, sont bien souvent trop faibles. Charlotte Cosset.
Les peuples autochtones évaluent qu'1% seulement de la finance climatique leur revient directement. Hilaria Firmian est analyste senior sur ces questions au sein du FIDA.
Souvent, les structures financières multilatérales et bilatérales ne sont pas suffisamment flexibles parfois pour donner un accès direct aux organisations des peuples autochtones. Non, c'est plutôt aux grandes ONG internationales. Et je pense aussi qu'il y a un petit peu un manque de confiance vers les organisations des peuples autochtones.
Un diagnostic partagé par le Congolais Albert Baroumé, rapporteur spécial des Nations Unies sur les peuples autochtones.
Il y a toute cette discussion de financer les autochtones, les organisations autochtones par intermédiaire de penser qu'ils ne sont pas capables de digérer, de tenir des comptabilités. Il y a toute cette perception des préjudices stockés dans nos subconscients et qui, en fait, constituent la base de tous ces outils qu'on met en place, mais qui finissent par discriminer certaines personnes.
Pour lui, pas de secret, il faut permettre un accès plus direct au financement à ces populations.
S'il n'y a pas de diminution ou allègement ou simplification de ces procédures, je ne pense pas que ces mécanismes de financement seraient justes. Je pense que c'est un défi qui reste quasi entièrement à relever. Parce qu'on est dans ce paradigme de penser que pour accéder à un financement, il faut être en mesure de remplir tel formulaire, de tenir une certaine sorte de comptabilité, de suivre certaines règles, d'avoir un minimum de connaissances. Mais comment on fait si on continue à nourrir les mêmes cibles et on ignore une grande masse qui n'a pas ces capacités?
Il y a quelques années, le FIDA a mis en place le mécanisme d'assistance pour les peuples autochtones, l'IPAF, Hilaria Firmian.
Dans lequel on donne des petits dons directement à des projets qui sont formulés et mis en œuvre par des communautés autochtones elles-mêmes. Et on reçoit un nombre incroyable de demandes. C'est un mécanisme qui est reconnu pour bien fonctionner, mais pour vous donner une idée du manque de finances, on a reçu pour les derniers cycles quelque chose comme 650 propositions et on a été en mesure d'en financer 53.
Le FIDA finance par exemple en Éthiopie un projet axé sur la préservation de l'anset, une sorte de bananes locales dont les racines sont consommées, très résistantes, mais menacées notamment par les nouveaux types d'agriculture.
C'était Afrique Économie avec Charlotte Cosset. Une période au goût bien trop amer pour le cacao. Les stocks mondiaux sont récemment tombés à moins de 3 mois de consommation, mais une autre donnée inquiétante a aussi fait son apparition. Une partie de ces stocks détenus par des entrepôts liés aux bourses de New York et de Londres sont à un niveau très bas par rapport à il y a un an, Marie-Pierre Olfan.
Dans les entrepôts européens rattachés à la bourse de Londres, les stocks avoisinent 21 000 tonnes de fèves contre 100 000 tonnes il y a un an. La baisse est aussi impressionnante dans les entrepôts portuaires affiliés à la bourse de New York. On parle de niveau au plus bas depuis 10 ans au moins. Ces stocks boursiers ne représentent environ qu'un dixième de ceux qui sont disséminés sur la planète, mais ils jouent un rôle crucial sur le marché. Ces réserves de cacao sont alimentées par les exportateurs ou les traders qui vendent des fèves qui seront livrées dans 3, 6 ou 9 mois et qui finalement ne trouvent pas de clients. Ces fèves invendues sont alors déposées dans ces entrepôts certifiés qui jouent le rôle de magasin. Les acheteurs, qu'ils soient traders, industriels ou chocolatiers, peuvent y acheter du cacao. L'avantage, c'est que ces fèves sont déjà dans le pays où elles sont transformées et consommées et donc tout de suite disponibles à un prix intéressant, plus intéressant en tout cas que celui proposé en ce moment dans les pays producteurs où la compétition est devenue permanente entre les grands industriels broyeurs de fèves qui cherchent à s'approvisionner. Ce n'est pas pour rien que le géant américain Hershey avait tenté d'acheter il y a un peu plus d'un mois 90 000 tonnes de cacao à la bourse de New York sans chercher à se fournir à la source en Côte d'Ivoire ou au Ghana par exemple. La baisse des stocks des bourses de Londres et de New York confirme aujourd'hui la tension qui existe sur le marché. Elle entraîne aussi une insécurité plus forte pour tous les acheteurs. Ils n'ont plus cette alternative pour s'approvisionner et combler un éventuel défaut de livraison. Une insécurité qui se traduit dans les prix du cacao qui sont toujours très élevés.
Marie-Pierre Olfan pour la chronique Matières Premières. À la une de l'actualité des Outre-mer, c'était il y a un peu plus de deux mois, le 14 décembre dernier. Mayotte était balayée par un cyclone d'une puissance jamais vue depuis 1934. Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour. 65 jours plus tard, à quoi ressemble la vie quotidienne dans le département 101, ravagé par Chido ? Quelques éléments de réponse avec Raphaël Kahn.
Le passage du cyclone est encore bien visible. La végétation commence à repousser. Les maisons n'ont pas forcément de toit, mais parfois des bâches. Des décharges à ciel ouvert occupent certains espaces et se vident petit à petit. Certains foyers n'ont pas d'eau, d'électricité ou de connexion Internet. Des distributions d'aide alimentaire se poursuivent dans les magasins. Les packs de bouteilles d'eau sont rationnés. Quand on a la chance d'en trouver. Les élèves, eux, sont retournés à l'école depuis près d'un mois. Ils s'habituent à leur nouveau rythme scolaire avec seulement quelques heures de cours par jour dans les salles de classe encore utilisables. L'urgence est toujours là, mais Mayotte entame sa reconstruction. La loi d'urgence a été adoptée. La loi programme est attendue d'ici quelques mois en espérant retrouver rapidement le monde d'avant.
Et pendant ce temps-là, l'État montre les muscles à l'île de la Réunion. Plus de 30 opérations anti-bandes ont été menées la semaine dernière dans des quartiers réputés sensibles. Jeudi dernier, par exemple, les forces de l'ordre étaient venues en nombre dans l'Est et plus précisément dans le centre-ville de la commune de Saint-Benoît. Reportage Priscilla Etève.
18h passées, il fait encore jour, tout est calme dans la résidence Fragrance de Saint-Benoît quand les gendarmes arrivent. Au pied de l'immeuble, cet homme approché par le chien renifleur doit vider ses poches de ses quelques pièces, puis est soumis à un contrôle d'identité.
Merci monsieur.
Jardin, couloir, cage d'escalier, rien n'échappe aux forces de l'ordre et en une demi-heure, deux interpellations. Le général Frédéric Labruni, commandant de la gendarmerie de La Réunion.
Une interpellation pour un port d'armes illégal, donc un point américain, et également ce qu'on appelle chez nous un hit positif, c'est-à-dire au fichier du personnel recherché, contrôle d'identité a permis de déterminer qu'on avait ici dans le quartier quelqu'un qui était demandé par les autorités judiciaires à Mayotte pour répondre de ses actes.
Le préfet Patrice Latron l'a encore prévenu, ces opérations anti-bandes vont devenir une routine dans certaines villes.
L'escadron de gendarmes mobiles va être consacré essentiellement à ça, et il y aura toutes les semaines des opérations. Dans une des cinq ou des six villes concernées par ce phénomène de bande.
En parallèle, il y a aussi l'action administrative. Aujourd'hui, la cellule anti-bande examine 22 dossiers de mineurs impliqués dans les violences urbaines. La caisse d'allocation familiale pourrait donc commencer à sévir.
Retour à Mayotte pour terminer. Mayotte, dont l'agriculture, en bien triste état après le passage de Chido, méritait bien ce gros coup de pouce. Elle sera en effet à l'honneur lors du Salon de l'agriculture, porte de Versailles, à Paris, du 22 février au 2 mars prochain. Frati Youssouf Saïd.
À ce jour, une dizaine d'associations, plus de 50 agriculteurs, des femmes pour la plupart, se préparent pour le grand voyage. Nombreux ont dû rebrousser chemin faute de produits, mais pour ceux qui ont répondu présent, l'heure est au préparatif et ils ont jusqu'à la fin de la semaine pour faire recenser leurs produits afin de les faire partir par avion. Des confitures, des achats, chocolat, café, vanille ou encore de l'ylang, plusieurs kilos de produits transformés vous accueilleront au Salon international de l'agriculture. Des produits made in Mayotte qui seront exposés sur près de 90 mètres carrés aux couleurs de l'île au parfum, un emplacement qui coûte en général 40 000 euros et qui sera offert cette année aux agriculteurs maorais pour les soutenir dans leur combat de faire connaître leur savoir-faire.
Fin de cette édition. Bon début de semaine. Bonne journée.
Bonne journée à vous aussi, Benoît Ferrand. C'est la fin de cette première édition d'Afrique Matin. Merci à vous de l'avoir suivi. Laurent Hérault était à la réalisation. Sébastien Duhamel à la rédaction en chef. Toute l'information de RFI à retrouver en continu, bien évidemment, sur notre site RFI.fr et sur l'application RFI. Dans un peu plus d'une minute, le retour de toute l'actualité internationale avec Martin Guèze. Bonne journée à l'écoute d'RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous
Chantal Leroux.
Au Sénégal, le nouveau pouvoir accuse le régime sortant d'avoir menti et falsifié les chiffres sur la situation des finances publiques. Suite au rapport édifiant de la Cour des comptes, la justice va ouvrir des enquêtes. Le camp Macky Sall dénonce une machination politique. Qu'en pensez-vous ?
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Malaké Sissoko, le maître malien de la kora, et Pierce Faccini, auteur, compositeur, interprète. C'est une collaboration qui dure depuis 20 ans, mais les voilà enfin réunis pour un premier album, Our Calling, notre appel. Il nous parle migration, celle des oiseaux et celle des hommes.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.